OK. Si vous voulez vous lever, on va lire la parole. Genèse, chapitre 31, les versets 44 à 55. Viens, faisons alliance, moi et toi, et que cela serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre et l'adressa pour monument. Jacob dit à ses frères, « Ramassez des pierres. » Ils prirent des pierres et en firent un monceau, et ils mangèrent là sur le monceau. Laban l'appela Jegar-Sahaduta, et Jacob l'appela Galed. Laban dit que ce monceau serve aujourd'hui de témoignage entre moi et toi. C'est pourquoi on lui a donné le nom de Galed. On l'appelle aussi Mitzpah, parce que Laban dit « Que l'Éternel veille sur toi et sur moi quand nous serons l'un et l'autre, quand nous nous serons l'un et l'autre perdus de vue. Si tu maltraites mes filles et si tu prends encore d'autres femmes, ce n'est pas un homme qui sera avec nous. Prends-y garde, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. » Laban dit à Jacob, « Voici ce monceau et voici ce monument que j'ai élevé entre moi et toi. Que ce monceau soit témoin et que ce monument soit témoin, que je n'irai point vers toi au-delà de ce monceau et que tu ne viendras point vers moi au-delà de ce monceau et de ce monument pour agir méchamment. Que le Dieu d'Abraham et de Nakhor, que le Dieu de leur père soit juge entre nous. » Jacob jura par celui que craignait Isaac. Jacob offrit un sacrifice sur la montagne et il invita ses frères à manger. Ils mangèrent donc et passèrent la nuit sur la montagne. Laban se leva de bon matin, baisa ses filles, ses fils et ses filles, et il les bénit. Ensuite, il partit pour retourner dans sa demeure. Vous voulez vous asseoir? Alors, le titre que j'ai donné ce matin au sermon, c'est Laban et Jacob qui traitent une alliance de paix entre eux. On se souvient comment ils se sont quittés. Il avait profité que son beau-père était parti à 3 jours pour aller tondre ses brebis. Il s'était comme sauvé sans l'avertir. Et on sait que Laban l'avait poursuivi sur une durée de 10 jours et il l'avait atteint sur une montagne. Au moment qu'il l'a atteint, ça aurait pu tourner vraiment à la catastrophe parce que Laban était furieux et que ça aurait pu arriver aussi que Jacob réponde de manière imprudente et que ça dégénère en chicane ou en violence. Mais là, on voit dans le texte d'aujourd'hui que le Seigneur avait fait une promesse de l'accompagner puis de toujours être avec lui et on voit aujourd'hui que c'est ça qu'il fait. Dieu va permettre que les deux finissent par se réconcilier et ils finissent par se séparer l'un de l'autre en paix. Ça, c'est une bénédiction de l'Éternel, parce que ça aurait pu tourner vraiment beaucoup plus mal que ça. Alors, on va regarder aujourd'hui Laban et Jacob qui traitent ensemble une alliance de paix. La paix dans une église, la paix dans un foyer, la paix dans un ménage, la paix n'importe où, là. C'est une bénédiction énorme. Alors, quand Dieu bénit, faut la recevoir et l'apprécier. Alors, on va regarder dans les versets 44 à 46, c'est qu'il y a une alliance de paix qui est demandée. Vous remarquerez par qui elle est demandée. Si vous vous souvenez des dernières paroles avant le verset 44, c'est que Jacob avait fait des reproches à Laban. Il a dit, t'as changé mon salaire 10 fois, t'as ci, t'as ça. Il a fait un paquet de reproches. Et Laban, plutôt que de recevoir les reproches avec humilité, ça, c'est mes enfants, ça, c'est mes chameaux, ça, autrement dit, il s'est grimpé, puis il a voulu démontrer à Jacob que tout ça, ça lui appartenait, alors que c'était faux. Il avait travaillé 14 ans pour ces deux femmes. Et il avait travaillé ensuite un autre 6 ans pour acquérir toutes ses brebis. Et on a vu que c'était Dieu qui avait permis qu'il acquiert ça. Alors, quand il dit « ce sont mes brebis, ce sont mes femmes, tout ça, ça m'appartient », il allait un petit peu trop loin. Il était vraiment au-delà de la réalité. Alors, moi, j'aime bien rappeler Quand on étudie un passage comme ça, rappelez ce que les promesses de Dieu avaient fait dans Genèse 28, parce que quand on a ça en mémoire et qu'on lit le passage aujourd'hui, on voit encore comment Dieu bénit Jacob. Alors, en Genèse 28, 13 à 15, on se souvient que c'est le passage où il y avait l'échelle qu'il y avait entre le ciel et la terre et que Dieu lui avait parlé par ce moyen-là. Mais Dieu lui avait dit des choses précises là, dans ces trois versets-là. 13, 14 et 15, Genèse 28. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac, la terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité, et ta postérité sera comme la poussière de la terre, et tu te répandras à l'Occident et à l'Orient, au Nord et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et voici, je suis avec toi. » Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai en ce pays, car je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait ce que je t'ai dit. On a vu que dans l'intérieur de ces trois versets-là, il y a deux choses qui se produisent. Dieu dit à Jacob, il renouvelle les promesses de l'alliance qu'il avait faite à Abraham, qui s'est transmise d'Abraham à Isaac, qui maintenant est transmise à Jacob. Donc, les promesses générales de l'alliance. Il parle il dit ta postérité. On avait vu dans Galates, chapitre 3, verset 16, c'était qui la postérité de ce verset-là? C'est important de s'en souvenir, parce que c'est Jésus-Christ. Dans Galates 3, 16, ça dit, or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Il n'est pas dit, et à ses postérités, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais comme d'une seule. Et à ta postérité, qui est Christ. Autrement dit, il est en train de lui rappeler les promesses de l'Alliance qu'un jour Christ va venir, et qu'en Christ, toutes les familles de la terre seront bénies en recevant le salut. Il est en train de lui rappeler ça. Mais en plus, il lui fait des promesses d'ordre personnel. Et c'est là que c'est important de s'en souvenir, parce que si on s'en souvient et qu'on lit le passage d'aujourd'hui, on voit comment Dieu est fidèle dans ce qu'il dit. Et ça, c'est important. Donc, le dernier verset, dans le verset 15, il lui fait des promesses au nombre de 5 promesses. Il lui dit, et voici, je suis avec toi. Je suis avec toi, ça parle de quoi ça? La présence divine. Si Dieu nous demandait quelque chose, puis il nous disait, mais je te demande quelque chose de difficile, mais je suis avec toi. On partirait-tu avec un petit peu de confiance? Ouais. Ben oui, je suis avec toi, et c'est Dieu qui parle. Deuxième chose, il dit, et je te garderai partout où tu iras. Donc, il y avait des risques de retourner dans son pays. On est en train d'en voir un. C'est un conflit qui a eu lieu, qui aurait pu dégénérer en vraiment catastrophe, déraper vraiment en violence. Dieu avait dit qu'il garderait. On voit comment il garde. Et donc, c'est la protection divine. Je te garderai partout où tu iras. Je te ramènerai en ce pays. Il veut le ramener dans le pays où il s'était poussé il y a 20 ans. Tu sais, sa mère lui avait dit, Ésaü, là, il va se calmer, là, puis dans quelque temps, là, une couple de mois, il va revenir. Ça a été une couple de mois? Ça a pris 20 ans. Alors, le Seigneur avait plein de choses à enseigner à Jacob. Et durant ces 20 années-là, Jacob, il a appris un paquet de choses. Lui, le trompeur, il a rencontré chaussure à son pied en rencontrant encore un plus grand trompeur que lui-même. Après ça, il a dit, car je ne t'abandonnerai point. On se rapportait à penser, il est sur la montagne, son beau-père est furieux après lui. Il a emmené toute sa famille avec lui dans le but de reprendre ses filles, dans le but de reprendre ses biens. Pensez-vous que ça n'aurait pas pu tourner à catastrophe? Quand le Seigneur a dit, je ne t'abandonnerai pas. Il est en train de l'accomplir. Et la dernière chose, il parle de fidélité divine. Je ne t'abandonnerai point que je n'ai fait tout ce que je t'ai dit. Moi, je trouve ça tellement agréable de lire la parole de Dieu. Parce que quand Dieu fait une promesse, il y a 5 parties là-dedans. Puis bien souvent, nous autres, on lit, on est rendu dans le chapitre 31, verset 32. On ne se souvient plus de ce qu'il dit. Mais c'est le fun de s'en souvenir, parce que là, tu te rends compte que Dieu est fidèle. Quand il dit, tout ça, là, je vais être avec toi, je vais te garder, je vais te ramener, je ne t'abandonnerai point, jusqu'à temps que tout ce que je t'ai dit, ça soit accompli. Merveilleux, hein? Alors, l'alliance de paix est demandée par Laban. Rappelons-nous que les relations de Laban et de Jacob étaient très tendues. Laban avait rattrapé Jacob dans son éreintante poursuite de 10 jours à d'autres chameaux. Laban, bien entendu, était furieux et il voulait récupérer ses fils, ses filles et ses biens. Cependant, là où on voit l'accomplissement, c'est quand Dieu lui dit qu'il va être avec lui, qu'il va l'accompagner. Dieu l'avertit Laban en rêve avant que la rencontre se fasse. Dieu a dit, je ne veux pas que tu parles à Jacob ni en bien ni en mal. Qui a prévenu le dérapage de violence possible? Dieu lui-même. Il était en train d'accomplir ce qu'il a dit dans Genèse 28. Il l'a protégé et l'autre, Laban, il était un petit peu fantasque. Il a dit à son gendre, j'ai le pouvoir en ma main de te faire du mal. Mais Dieu m'a averti de ne pas dire ni bien ni mal. Alors, il se rendait compte que s'il n'osait pas faire des gestes de violence, c'est parce qu'il avait reçu un avertissement de la part de Dieu lui-même. On se souvient que Laban s'était fait voler ses téraphimes, des genres de statues idolâtres qui faisaient de l'idolâtrie. Sa fille Rachel l'avait volé. Alors, lui, quand il est allé, il a rencontré, il a commencé par la tante de Jacob. On l'avait dit la semaine passée, mais il commence toujours par celui qui aurait dû, ça aurait dû être le dernier, parce que t'es un homme honnête. Il savait, il était 20 ans avec lui, t'es un homme hyper honnête. Il commence par Jacob, ensuite il va dans la tante à Léa, ensuite il va dans la tante des servantes, et il termine par sa fille Rachel, et c'est elle qui lui compte le mensonge que... « Ah, ben je suis assis, puis je suis parce que je suis dans mes menstruations, je ne peux pas me lever. » Et à quelque part, ça passe. Et il ne retrouve pas ses yeux. Et là, on se souvient, la semaine passée, quel effet que ça a eu sur Jacob. Il était bleu, comme on dit. Il était dans une grande colère. Et là, il s'est mis à bombarder son beau-père en lui rappelant toutes ses 4 vérités. Pensez-vous que c'était pas explosif, ça, cette situation-là? C'était très explosif. Alors, il était furieux contre son beau-père. Il déverse sa colère, ses frustrations et ses reproches, mais qui sont pleins de vérité. Autrement dit, tu sais que des fois, on dit à quelqu'un, « J'ai dit mes 4 vérités en pleine face. » Ben, c'est ça qui se passait, là. Le gendre disait ses 4 vérités en pleine face à son beau-père, mais il lui disait, en mettant pas de gants blancs, là. Ça aurait pu arriver que Laban réagisse mal. Et il a mal réagi, il n'a pas réagi avec humilité. Il n'a pas dit, « Ouais, c'est vrai que j'ai été dur avec toi. C'est vrai que je t'ai volé. C'est vrai que je t'ai exploité. C'est vrai que j'ai exploité mes filles. Ça, ce sont mes brebis, ce sont mes filles. » Et là, l'orgueil a monté à la tête. Alors, on voit, et c'est cet homme-là, parce que le verset 43 finit par, « Ça, c'est mes brebis, ça, c'est mes bœufs, ça, c'est ici. » Et dans le verset 44, on voit que c'est le même homme qui vient demander la paix à Jacob. Il prend du front, hein? C'est là qu'on voit que le pécheur, il a du front autour de la tête. Même après s'être fait rappeler ses vérités, plutôt que d'accueillir ça avec humilité, de dire « c'est vrai, je t'ai maltraité ». Ben non, il s'entête. Et en plus, il dit à son gendre, « Maintenant, je sais que tu es béni de Dieu, j'aimerais ça qu'on fasse une entente de paix entre moi et toi. » Alors, ça prenait un bon caractère de la part de Jacob pour qu'il accepte ces conditions-là. Alors, dans Genèse, dans les versets 44 à 46, il lui dit, maintenant, il faut se rappeler que quand il dit verset 43, il avait dit, ce sont mes brebis, ce sont mes bœufs, ce sont mes filles, tout ça. Et dans le verset 44, il dit, maintenant, viens, traitons ensemble une alliance et qu'elle serve de témoignage entre moi et toi. Jacob prit une pierre, il la dressa en monument, et Jacob dit à ses frères, « Amassez des pierres, ils prirent des pierres et en firent un monceau, et ils mangèrent là, sur le monceau. » Donc, Laban et Jacob, tous les deux, avec leur famille, s'entendent pour concrétiser leur nouvelle alliance avec des moyens concrets. Un monument et un amas de pierres, les deux. Alors, ils veulent que l'entente soit permanente et ils veulent que ça illustre leur volonté commune de faire un geste concret qui serait un témoignage, un témoin entre eux de la réalité, de leur engagement l'un envers l'autre. Autrement dit. Alors, ils érigent un monument comme souvenir de leur engagement mutuel. Et les deux groupes, parce que ça dit qu'après qu'ils ont fait le tas de pierres, se sont assis sur le tas de pierres puis ont mangé ensemble. Déjà, ça augurait bien. Qu'ils aient voulu ça, on va faire des monuments, on va faire des gestes entre nous qui vont être concrets. Deuxième idée, c'est celle de l'alliance de paix qui est déclarée dans le verset 47 à 53. Versets 47 à 48, là, il y a des noms qui sont donnés, qui sont des noms, un en araméen, puis l'autre en hébreu. Et Laban l'appela Yegar Sadaduta, et Jacob l'appela Galed, monceau du témoignage. Et Laban dit, ce monceau est témoin entre moi et toi aujourd'hui. C'est pourquoi on l'appela Galed. Laban et Jacob s'engagent solennellement l'un envers l'autre. Ils veulent démontrer qu'ils se sont réconciliés. Ça prenait un bon caractère pour la part de Jacob. Dire, oh, oui, on va en faire une alliance. Laban, il semble s'inquiéter des comportements futurs de son gendre. Autrement dit, il veut se protéger. Tout d'un coup, qu'il change d'idée, puis qu'il va chercher du monde dans son pays, puis qu'il revient réclamer ce que je lui dois, parce qu'il sait très bien ça, qu'il lui doit pour le vrai. Alors, il était inquiet des comportements futurs de son gendre, et envers lui et envers sa famille. Et c'est très intéressant de voir les exigences et les mauvaises intentions qu'il prête à Jacob. Je sais pas, en psychologie, le mot « faire de la projection », ça veut dire que quand tu as quelque chose que dans tes pensées qui sont mal, tu es porté à les projeter sur l'autre et à autrement dit, à prendre ce que tu as de mal en toi puis de penser que c'est l'autre qui a ces idées-là. Il appelle ça de la projection. Et ça, on voit très bien que Laban fait de la projection vers son fils. Autrement dit, il est à plein de mauvaises intentions lui-même, mais il est en train de faire il veut que son gendre s'engage à certaines choses. Première chose, il exige de Jacob qu'il ne maltraite pas ses filles, alors que lui-même le fait pendant 20 ans. Ses filles elles-mêmes ont reconnu notre père nous a maltraités pendant 20 ans. Et alors, il est en train d'exiger d'un autre qu'il ne maltraite pas ses filles alors que lui-même le fait. Autre chose, il exige que Jacob ne prenne pas d'autres femmes, alors que c'est lui-même qui a poussé Jacob à la polygamie. Parce qu'il voulait Rachel, puis il a passé Léa, et après ça, ben là, il en avait déjà deux, il était déjà polygame. Alors il dit, je veux pas que tu maries avec d'autres femmes. Pourquoi l'idée, en arrière de ça, il y avait probablement l'idée de vouloir se protéger. S'ils marient d'autres femmes de d'autres peuples, ils vont peut-être vouloir revenir puis prendre leur bien que je leur dois. Alors il est en train, sa propre malhonnêteté, il la projette sur l'autre en pensant que lui va faire ça, alors que c'est peut-être ça qu'il aurait fait lui-même. Il exige aussi que Jacob ne cherche pas à se venger, alors qu'il connaissait très bien le caractère doux et paisible de Jacob. Parce que lui, probablement, qui a un esprit vengeur, mais il est porté à penser que l'autre va avoir aussi un esprit vengeur. C'est ça la projection. Prendre une mauvaise quelque chose que tu as dans toi, puis penser que c'est l'autre qui veut ça. Et aussi, il exige que Jacob ne lui nuise d'aucune manière, alors que c'est uniquement ça qu'il a fait durant ses 20 dernières années. Tu sais, c'est comme quelqu'un qui t'a fait du trouble pendant 20 ans, là tu fais une entente avec lui, puis il dit « là, je veux pas que tu me fasses du trouble d'aucune façon ». Quelque part, il y avait quelque chose là-dedans, tu vois que c'était un homme qui avait l'esprit tordu un petit peu. Alors, il semble que nous assistons ici au phénomène que la psychologie appelle la projection. Un phénomène qui consiste à voir dans les autres nos propres mauvaises pensées et nos propres mauvaises intentions. Des fois, quand on pense, oh, il va faire ci, il va faire ça, il va faire ça, il faut se demander, je suis en train de faire de la projection. De penser que ce que j'ai à l'intérieur du cœur, c'est ça qu'il y a à l'intérieur du cœur, lui, en avant de moi. Alors là, cette alliance-là est scellée, et est scellée, mais par un appel à Dieu lui-même. C'est bizarre que cet homme-là, qui est un idolâtre, veuille que l'entente qui prenne entre les deux, que Dieu lui-même soit témoin entre eux qui ne feront pas ni une des choses qui ont été mentionnées. Il dit, et aussi, verset 49, et aussi Mitzpah, qui veut dire poste d'observation, parce que Laban dit, « Que l'Éternel veille sur moi et sur toi quand nous serons retirés l'un avec l'autre. Si tu maltraites mes filles, et si tu prends d'autres femmes que mes filles, ce n'est pas un homme qui sera témoin entre nous. Vois, c'est Dieu qui sera témoin entre moi et toi. » C'est un peu comme nous autres, que quelqu'un qui ne croit pas en Dieu viendra te faire des... Tu prendras une entente avec lui, puis il ferait appel au Dieu, à ton Dieu, à toi, alors que lui n'a pas de Dieu, c'est un Dieu d'idolâtrie. Et verset 51, et Laban dit à Jacob, « Voici ce monceau de pierre, et voici le monument que j'ai dressé entre moi et toi. Ce monceau est témoin, et ce monument est témoin, que je ne passerai point ce monceau en allant vers toi, et que tu ne passeras point ce monceau et ce monument en venant vers moi, pour nous nuire l'un et l'autre. » Il est en train de dire à Jacob, là, les tas de roches qu'on a faites, puis le monument, là, c'est un signe que moi, je n'irai pas plus loin que ça pour aller vers toi. Puis c'est un signe que toi, si tu décides d'en venir, tu n'iras pas plus loin que ça. Il se protège, autrement dit. Alors, il y a trois choses qui sont mentionnées à l'intérieur de ça où on fait appel à Dieu. Et on fait appel à Dieu sous trois formes dans ce passage-là. On fait appel à Dieu comme témoin. Verset 49, il est en train de dire, « Dieu va être témoin si tu accomplis tes engagements ou non. » Il prend Dieu à témoin. Un peu comme quand on va en cours, ils nous font jurer sur la Bible, « Je dirai de la vérité. » Des fois, il y a du monde qui font ça, c'est comme un geste inconscient. Ils jurent devant Dieu, puis dans le fond, ils ne pensent pas ce qu'ils font. Mais Dieu, lui, il perçoit ton comportement. Tu prends Dieu à témoin, mais Dieu est témoin que tu as fait ça. Si tu comptes des mensonges après avoir mis ta main sur la Bible, c'est beaucoup plus grave que les gens pensent qu'ils font, en général. Aussi, il demande à Dieu d'être un observateur. Autrement dit, si tu te déplaces, si tu veux t'en venir vers moi, et si moi je me déplace et je veux aller t'attaquer, il dit, je veux que ce soit Dieu qui observe si on accomplit nos engagements. Et dans l'autre verset, il demande à Dieu comme juge. Mais il dit, oublie pas, là, si tu ne fais pas ce que je t'ai dit, là, Dieu va te juger. Alors que c'est un idolâtre et un païen lui-même. C'est spécial, hein, quand on regarde ça un petit peu. Et les versets 54 et 55, on voit que c'est une alliance de paix qui est démontrée. On voit que le Dieu va accomplir les promesses, les cinq promesses, encore une fois, parce que là, il va se produire des gestes concrets de réconciliation. Quand on se réconcilie, normalement, qu'on fait quoi? Souvent, je veux dire, pas... On est joyeux, là on dit, OK, on oublie ça, c'est fini. C'est ça qu'ils font. Si on ne voit pas la main de Dieu là-dedans, que ça nous prend. Ça dit dans le verset 54 et 55. Et Jacob offrit un sacrifice sur la montagne. C'est à quoi lié? Jacob voulait exprimer sa reconnaissance à Dieu. Il voulait exprimer que si tout ça tournait de cette façon-là, c'est parce que lui avait, Dieu était intervenu. Et ça dit, et il invita ses frères à manger le pain. Ils mangèrent donc le pain et passèrent la nuit sur la montagne. Faut-tu que les deux groupes soient de bonne humeur pour manger du pain, puis peut-être prendre un verre de vin? Puis ça a duré toute la nuit, comme on dit. Ça, c'est une bonne réconciliation, là. Quand tu te réconcilies avec quelqu'un, puis tu passes toute la nuit avec, à jaser, puis c'est une grande bénédiction. Et on voit le point final dans le verset 55, comment Dieu permet que toute cette aventure-là, cette crise, parce que c'est une crise dans sa vie, comment Dieu permet qu'il se sorte de la crise de manière, par des bénédictions. Parce que regarde, ça dit le verset 55, « Et Laban se leva de bon matin. » Autrement dit, un moment donné, ils sont couchés. Puis le matin, de bonne heure, bon, il faut s'en retourner. On reste encore 10 jours avant de me retourner chez nous, à taux de chameau. On se lève de bon matin, on se lève de bonne heure, comme autrement dit. On ne part pas à 3 heures l'après-midi. On se lève de bonne heure le matin. Et là, il baisa ses fils et ses filles. Et il s'en alla. Avez-vous remarqué que ça ne dit pas « il baisa Jacob »
Non, non.
Autrement dit, il baise ses fils, ses filles, mais il ne parle pas que... Oui, il est réconcilié, mais tu vois que ça ne va pas plus bien que ça avec son gendre. Ça dit ensuite « ainsi, Laban retourna chez lui ». Alors, plutôt que de tourner en chicane, puis en violence, Dieu permet qu'ils se quittent toutes les deux. Mais là, on va voir une chose à partir du verset, du chapitre suivant. On va voir que Dieu est en train de préparer Jacob à rencontrer une autre crise. Parce que là, il s'en va dans son pays, puis il sait qu'ils ont eu le temps. Alors, dans sa petite cervelle, ça doit fonctionner. Ouais, mais si je m'en vais vers Ésaü, il m'en veut au point qu'il veut me tuer. Qu'est-ce que ça va avoir l'air quand on va se rencontrer, nous deux? Donc, le Seigneur permet qu'il sorte d'une crise et il l'entraîne dans une autre crise pour lui montrer que ce qu'il a promis, il va le faire pareil. C'est tellement merveilleux quand on remarque chapitre 28, qu'est-ce qui a été dit, puis ensuite comment Dieu a réalisé toutes ses promesses. Alors, l'alliance de paix est démontrée par plusieurs manières, par l'adoration, parce que le geste de mettre quelqu'un, d'offrir un sacrifice, c'est un geste d'adoration de la part de Jacob. Démontré aussi par la communion fraternelle et la paix. Durant toute une nuit, tu fêtes ça. Et démontré aussi par les bénédictions, le lendemain, au lieu de partir, puis dire, « Oh, vous autres, mes filles, là, vous avez quitté, puis au lieu de faire des reproches, là, c'est les embrassades, puis... C'est vraiment agréable de voir ça. Et des témoignages d'affection, mais accepter que ça ne mentionne pas qu'il n'a eu envers son gendre.
Ouais.
On peut se poser la question, pourquoi qu'il ne mentionne pas? Peut-être parce qu'il n'a pas eu. Il ne peut pas mentionner quelque chose qu'il n'a pas eu. Là, en tout cas. Alors, on va faire quelques applications de ce qu'on a étudié. La première application, je dirais, apprenons de Jacob. Son caractère pacifique et sa douceur le mit dans de bonnes dispositions envers Laban, malgré la dureté de celui-là envers lui. Nous autres, comme chrétiens, ça peut arriver qu'il y ait du monde qui nous en fasse des troubles aussi, qui nous en fasse voir de toutes les couleurs. Et Jacob, ici, est un bel exemple de comment on se doit de réagir quand quelqu'un t'offre la paix. Ce sera trop facile de dire, « Oh ben là, toi, si tu penses qu'avec tout ce que tu m'as fait, tu vas t'en tirer de même. » Non, il se calme, puis il dit, « Oui, OK, on va la faire, la paix. » Alors, supplions, je dirais comme application, supplions le Seigneur de nous donner d'agir de même lorsque nous avons été maltraités par quelqu'un et que celui-ci nous offre la paix. Mais trop facile de retomber dans les reproches, puis dire, « Ben là... » Il oublie, il fait la paix. Mais la paix, ça a un prix énorme. Alors, faisons preuve aussi, nous aussi, lorsque ça nous arrive des choses de même, de miséricorde et de bonté. C'est ce que le Seigneur veut. Ça, c'est une des leçons du texte. Une autre, c'est comme Laban et Jacob, n'hésitons pas à exprimer très concrètement notre pardon envers ceux qui nous ont été hostiles et injustes. Eux autres, ça a été par l'érection d'un monument et d'un tas de roches. Et ça a été aussi par le fait qu'ils se sont fêtés ensemble. Alors, c'est des démonstrations. Oui, on s'est réconciliés, mais on a des signes concrets qu'on s'est vraiment réconciliés. Et la troisième et dernière application, sachons que nous serons toujours bénis lorsque nous obéissons à Dieu et que nous nous comportons en conformité avec sa volonté pour maintenir la paix avec nos semblables. Que le Dieu de paix soit adoré, béni, loué éternellement. Amen.